On va parler maintenant des élections en Uruguay. Dimanche dernier, 31 octobre, il y a eu des élections présidentielles en Uruguay. Et pour la première fois, un socialiste, c'est-à-dire que c'est la coalition de gauche, si on veut, la coalition socialiste en Uruguay.
Coalition du Frente Amplio.
Voilà. L'Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría, pour être plus exact. Et c'est donc pour la première fois un socialiste, Tabaré Vázquez, qui sera président de l'Uruguay. Et on a un partenaire, un collaborateur qui est là-bas en Uruguay et qui a couvert les élections.
Oui, alors Frédéric Dubois est en tournée dans toute cette partie de l'Amérique latine. Alors, il a commencé sa tournée en Uruguay. Il va se rendre prochainement en Argentine, en Bolivie. Donc, il va nous servir de correspondant pour parler de la situation là-bas. Évidemment, l'événement le plus significatif cette semaine, c'était l'élection en Uruguay. Et c'est la première fois en quelque chose comme 150 ans qu'il y a un vrai parti de gauche qui est élu. L'Uruguay, c'est un parti, comme on va l'entendre, là où il y a deux gros partis nationaux, là, un peu comme les libéraux et les conservateurs, qui s'échangent le pouvoir depuis 150 ans. Alors, je l'ai rejoint un peu plus tôt aujourd'hui pour faire une entrevue avec lui, faire le point un peu sur la situation dans ce pays-là. Alors, Fred, tu te retrouves où exactement en ce moment?
Moi, je suis situé à Corrientes, dans la province de Corrientes, dans le nord de l'Argentine.
D'accord. Et là, tu viens de quitter l'Uruguay et tu te diriges vers le reste de l'Argentine, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'étais en Uruguay la semaine dernière et là, en ce moment, je me prépare à aller à Salta, une ville du nord de l'Argentine, en route vers la Bolivie.
D'accord. OK. Alors, Fred, tu as suivi là de près les élections en Uruguay. Évidemment, ça a été passé sous silence à cause des élections aux États-Unis. Mais il y avait une élection qui a été assez importante en Uruguay et qui a amené là un changement de cap assez important dans ce pays-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé?
Oui, bien sûr. Ben en fait, j'étais présent là la semaine dernière, c'est-à-dire toute la période autour du 1er novembre. Le 31 octobre, il y a eu des élections générales en Uruguay, ce qui signifie que tous les citoyens étaient appelés aux urnes. Et puis, le grand changement qu'il y a eu, c'est l'arrivée d'un parti de gauche au pouvoir qui s'appelle le Frente Amplio, qui, au-delà d'être un parti, c'est une coalition, en fait, de différents partis de gauche, autant de chrétiens démocrates que de communistes, que du Parti socialiste et aussi des gens du MPP qui est un parti qui s'appelle Mouvement pour la participation populaire qui est constitué essentiellement d'ex Tupamaros, le mouvement guérillero qu'il y a eu dans les années 70 en Uruguay pendant la période de la dictature. Ouais. Donc en fait toute cette coalition là de gauche qui s'appelle le Frente Amplio a pris le pouvoir avec près de 51% des voix, c'est ça les derniers chiffres qu'on a. Il y a toujours la période de décompte en ce moment en Uruguay, mais ça va se stabiliser autour de 50,5%, quelque chose comme ça. Ça, c'est un pourcentage extrêmement élevé pour la région, mais aussi en général dans les élections dans le monde. Il y a très, très peu de gouvernements qui ont réussi à ramasser autant de voix, et ça s'explique notamment par un appui très fort à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, où il y a eu un appui de près de 60% pour cette coalition-là. Mm-hmm. Et dans les régions, il y a eu des régions clés aussi en Uruguay, comme Salto, Maldonado, Paysandú, qui sont des régions où il y a une activité économique, où il y a plusieurs des populations plus importantes qui ont aussi appuyé le Frente Amplio.
Oui. Et là, on parle d'un pays qui a... Bon, on dit que c'est la première fois en 150 ou 160 ans qu'il y a un gouvernement de gauche qui prend le pouvoir, là. Alors, peux-tu nous expliquer un peu quelle est l'histoire politique là, de ce pays-là?
Oui, je pourrais pas vous faire un cours d'histoire politique, sauf que, en fait, juste pour donner un petit peu de contexte, pourquoi est-ce que le Frente Amplio a ramassé une majorité au Parlement puis une majorité au Sénat? Et pourquoi le nouveau président est rentré aussi fortement, c'est que effectivement, comme tu disais, Roberto, il y a eu 150 ans de partis traditionnels au pouvoir. Eux, ils appellent les partis traditionnels, c'est qu'on parle du parti Colorado et parti Blanco.
Ouais, c'est comme le parti
rouge, le parti blanc.
Ouais.
Et donc le parti blanc était toujours un petit peu le parti en opposition au parti rouge, mais dans les faits, et ça c'est connu dans l'histoire uruguayenne, là, c'est les deux partis qui s'appuyaient et qui finissaient être très en complémentarité toujours. Et là, le parti Colorado, qui était le dernier au pouvoir, a ramassé 10% des voix seulement, donc c'est vraiment la
débandade.
Pardon?
C'est la débandade, c'est...
Oui, la débandade totale pour le parti qui était au pouvoir. Et le parti blanc, lui, a ramassé 35% des voix, donc un tiers des suffrages, qui est quand même raisonnable, mais c'est quand même un parti qui a aussi beaucoup souffert de la montée de la gauche en Uruguay. Maintenant, la révolution, si on peut l'appeler comme ça, qui se passe dans le pays, moi, je l'analyse sur deux points surtout. Premièrement, il y a eu en Argentine une espèce de mythe qui s'est formé dans les années 70 et même avant, qui s'est développé. On sait qu'en 73, la dictature commence en Uruguay pour une période de 13 ans. Et avec la dictature arrive aussi le mythe de la place financière, c'est-à-dire que les dirigeants politiques ont mis de l'avant l'idée que l'Uruguay pouvait devenir la Suisse de l'Amérique latine, pouvait devenir un endroit où les banquiers s'installeraient, ou pour toute la région, du moins de l'Amérique du Sud, ça pourrait devenir une plaque tournante financière. Avec ça, ben aussi une idéologie, si on veut, qu'on peut appeler néolibérale, qui veut dire surtout des privatisations massives d'entreprises et aussi une coupe dans les services publics et ainsi de suite. Tout ça, ça a contribué en fait au chômage, à augmenter le chômage qui actuellement est à 20%. On a aussi une pauvreté qui a doublé dans les dernières années pour atteindre quelque chose comme 60%. Un exode de la population vraiment important. En se promenant dans les rues de Montevideo, je veux dire, je voyais les citoyens là. Ils étaient essentiellement des générations plus âgées. Donc, vraiment, les jeunes sont partis en masse en Argentine, au Brésil, dans les pays voisins, pour essayer de trouver de l'emploi. Et aussi, il y a une dette astronomique là, qui s'est accumulée avec les partis traditionnels, ce qui fait que vraiment la population uruguayenne en a eu tellement marre de voir cette situation-là. C'est un écœurement vraiment par rapport aux élites politiques. Et donc, moi je dis que c'est principalement pour cette raison-là qu'il y a eu une arrivée du Frente Amplio. L'autre raison pour laquelle le Frente Amplio est rentré si fort en Uruguay, c'est le fait que le parti lui-même a maturé. C'est-à-dire qu'il est devenu d'un parti qui, en 71, quand il a été créé, un petit parti marginal. On pourrait parler, par exemple, dans le cas du Québec, l'équivalent, ce serait l'UFP. Donc, un parti avec très, très peu de voix et qui, au fil des ans, s'est développé et a développé une vraie alternative. A pu montrer aussi, à travers de la gestion de la ville de Montevideo, qui, depuis 15 ans, est entre les mains du Frente Amplio. Ils ont pu montrer qu'ils étaient capables de vraiment gouverner. Le Montevideo, de toute façon, est une ville qui rassemble 1,5 million de population. Et le pays, dans l'ensemble, l'Uruguay, rassemble 3,4 millions de population. Donc, on voit que ce parti-là pouvait déjà, si on veut, gouverner une population, au moins la moitié de la population du pays.
Oui.
Aussi, il faut dire par contre que le Frente Amplio est parti d'une position relativement à gauche, donc assez fortement à gauche socialiste, vers une position de moins en moins radicale, même si on retrouve encore aujourd'hui des partis comme le Parti communiste, le MPP dont je parlais précédemment, et aussi le mouvement 26 de mars, qui sont tous des mouvements un petit peu plus radicaux à l'intérieur de cette coalition-là. Maintenant, déjà en 99, on avait vu l'ascension là, du Frente Amplio, où il avait ramassé 45% des voix, mais il n'avait pas pu prendre le pouvoir à cause du fameux 50% qu'il fallait atteindre. Ça, c'est une mesure d'ailleurs qui a été implantée par les deux autres partis traditionnels, le Parti blanc et le Parti rouge, et qui voulait empêcher la montée du Frente Amplio. Et même à ça, on voit maintenant cinq ans après, que le Frente Amplio a réussi à ramasser 51% des voix, ce qui est absolument phénoménal, et qui explique aussi en partie pourquoi la population était déchaînée, complètement euphorique le soir de l'élection du président Vázquez.
Ouais. Mais est-ce que la plateforme là de ce parti-là, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est radicale, est-ce qu'elle est de gauche, comment est-ce qu'on peut la caractériser?
Ouais, ben moi j'ai lu, si on veut, le programme du Frente Amplio et j'ai écouté les débats des derniers jours avant l'élection. Et c'est une plateforme, bon, c'est très difficile, ça dépend du point de vue où on se place, là. C'est sûr que pour ce qu'on est habitué en termes politiques, là, au Québec ou au Canada, bon, on dirait que c'est une plateforme de gauche. Par contre, pour ici, moi je trouve que c'est une plateforme relativement de centre, centre-gauche. C'est-à-dire que ça se veut, par exemple, au niveau de l'économie, ce que le gouvernement veut faire maintenant, ce que le Frente Amplio mettait de l'avant dans sa plateforme politique, c'était de réindustrialiser le pays, c'est-à-dire de créer une production nationale assez forte pour pouvoir créer plus d'emplois, pour sortir un petit peu du cercle vicieux là du chômage et puis de la descente en enfer, et aussi de créer un système, des mécanismes pour créer plus de transparence puis une qualité institutionnelle qu'ils appellent ça, c'est-à-dire que le citoyen soit plus à même de voir quels services sont offerts par le gouvernement et aussi de pouvoir savoir exactement où s'adresser pour certains services. Donc, une transparence puis au niveau de la gestion même des affaires publiques, plus de transparence.
Oui.
L'autre élément clé là dans la plateforme du Frente Amplio, c'est de réarmer les lois du travail, c'est-à-dire de créer un code du travail comme il y avait déjà en Uruguay, mais qui s'est peu à peu effondré avec l'arrivée du néolibéralisme puis les politiques vraiment de droite des années 80. Donc, on essaie de créer à nouveau au moins des minimums pour lesquels le travailleur peut avoir un salaire décent, avoir une dignité au niveau du travail.
D'accord. Oui, il y a eu également un référendum sur la question de la privatisation de l'eau.
Oui, tout à fait. Ça aussi, c'était une campagne que le Frente Amplio a menée. Il existe quelque chose qui s'appelle la Commission nationale en défense de l'eau et de la vie. Ça, c'est un mouvement qui s'est créé à l'intérieur du Frente Amplio en coalition avec différents mouvements sociaux environnementalistes et des mouvements sociaux plus amples. Et cette commission-là mettait de l'avant depuis 3 ans l'idée de faire un référendum. En Uruguay, on a l'habitude de faire des référendums sur différentes questions, mais qui sont amenées par les citoyens. Donc, les citoyens, s'ils ramassent un certain nombre de signatures, peuvent présenter une demande de référendum. Et parallèlement à l'élection, c'est-à-dire le jour de l'élection, quand les gens allaient voter, ils pouvaient directement aussi voter sur la question de l'eau, sur ce référendum-là. Et la question était la suivante, c'est à savoir si on reconnaissait que l'eau était un droit fondamental, un droit humain fondamental, et que reconnaissant ce fait-là, on ne privatise pas l'eau dans tout l'Uruguay. Et la réponse a été à 60% en faveur de l'arrêt des privatisations et en faveur de la reconnaissance du droit fondamental de l'eau, que ça ne soit pas vu comme un produit, mais vraiment comme un droit fondamental et que ça soit un droit public. Donc, que ça reste sous la gouverne du gouvernement. Il y a une petite anecdote par rapport à cette question-là de l'eau, c'est qu'une semaine avant le référendum, donc il y a environ 2 semaines de ça, il y a eu la compagnie Uragua, qui est une compagnie espagnole, une multinationale espagnole qui gère déjà un système de traitement de l'eau dans la ville de Maladona. Cette compagnie-là a envoyé une lettre au président de la République pour dire que la compagnie se retirait du pays et que ça ferait un incident diplomatique, et ainsi de suite, si les gens votaient oui au référendum. Et donc, c'était une certaine forme d'intimidation ou de pression mise sur la population, oui, par cette compagnie multinationale-là qui a, heureusement ou malheureusement, dépendamment des points de vue, perdu son pari. Et donc, l'Uruguay a dit clairement non à la privatisation de l'eau. Et ça, ça signifie pour cette compagnie-là, comme pour toutes les autres multinationales qui sont déjà impliquées dans le système de traitement d'eau ou de l'eau potable en Uruguay, qui vont devoir se retirer progressivement. C'est-à-dire que le nouveau gouvernement du Frente Amplio se fait donner, avec ce référendum-là, aussi un mandat, donc une légitimation jusqu'à un certain point, pour dédommager les compagnies et faire en sorte que les compagnies sortent tranquillement de la gestion de l'eau.
Alors Frédéric, il semble y avoir vraiment une nouvelle problématique régionale qui émerge en Amérique latine, surtout avec cette élection-là en Uruguay. Il y a quand même des changements assez importants qui se produisent.
C'est là, cette victoire-là du Frente Amplio et du président Vázquez, en fait, ça s'insère assez bien régionalement, puisque on a vu Lula au Brésil, on a vu Kirchner qui est rentré en Argentine et Lagos, qui est le président chilien, qui ont tous des penchants, le cœur à gauche, si on veut, qui ont tous des penchants socialistes, et que, étant donné qu'il y a cette dynamique-là, on va voir une alliance beaucoup plus forte entre ces pays-là et les pays du Mercosur, dont aussi le Paraguay. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la région, et puis ça va peut-être pouvoir de faire un petit peu un front commun contre l'élection de Bush.
Oui, mais justement, parce que aux États-Unis, ils ont choisi la continuité, mais dans le fond, en Amérique latine, on voit de plus en plus que on vote pour un changement et même des changements assez radicaux.
Oui, exactement. On annonce un peu une ère là, progressiste en Amérique latine, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ils vont pouvoir avoir une marge de manœuvre ici dans ces pays-là pour justement implanter les idées plus socialisantes, étant donné que les États-Unis puis les organisations internationales ont quand même une présence très forte et imposent beaucoup de contraintes aux finances publiques de ces pays-là.
D'accord. Frédéric Dubois, merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci, Roberto.
Alors, on écoutait Frédéric Dubois, notre collaborateur en Amérique latine pour les semaines et les mois qui viennent.
Oui, et un collaborateur aussi du Centre des médias alternatifs du Québec. Donc, on retrouve un certain nombre de ses textes là-dessus. Également, pour les gens qui voudraient s'informer un peu plus à fond sur la situation là-bas, vous pouvez aller sur le site web qu'il maintient. C'est www.patagoniabolivia.net. Alors, Patagonie Bolivie, Patagonia Bolivia.net.